Chapitre 49. Les cinq règles du grand cerf. Augénor s'avança sur l'estrade de l'arène où, une semaine auparavant, Vanil s'était exprimé. Tous les ministres, y compris Vanil, étaient installés au premier rang. Zizo était parvenu à se faufiler jusqu'à la première rangée et à s'asseoir près d'Alix. « Tu dois intervenir, » murmura Zizo à son oreille. « C'est toi, la reine. Augénor n'est que ton conseiller. » Alix s'éloigna de deux sièges pour que Liu, assis à côté d'elle, n'entende pas leur conversation. « Je suis d'accord avec toi, gros malin. Mais pourquoi crois-tu qu'il a convoqué tous les ados ? Il sait bien qu'au conseil, il aurait été mis en minorité si les mesures qu'il va annoncer s'attaquent un peu trop à nos libertés. Alors qu'ici... il faudrait faire avec l'opinion de toute la communauté. Et n'oublie pas que dans un mois, je ne serai plus reine. »
Sauf si t'es réélue, Alix grimaça.
Justement, si par miracle je me représentais, pour avoir une chance d'être élue, il va falloir jouer serré.
Augénor frappa le plancher de l'estrade de sa canne au pommeau de diamant. Le calme dans l'amphithéâtre se fit immédiatement. Après un long préambule rappelant les conclusions du grand contrôle la semaine précédente, des remerciements pour le travail de tous les ministres depuis l'arrivée au nouveau château, dont, affirmait-il, personne n'avait eu à se plaindre, le grand cerf entra dans le vif du sujet.
« Je vais vous proposer cinq règles nouvelles, un peu contraignantes pour chacun, mais qui seront bénéfiques à tous, j'en suis certain. » et qui toutes visent à mieux assurer notre sécurité. Il va de soi qu'elles ne sont que temporaires, le temps que le ou les coupables soient démasqués. La première règle, qui existe déjà mais n'est sans doute pas suffisamment appliquée, est qu'aucun habitant du château ne pourra désormais refuser la corvée pour laquelle il a été désigné. Celui qui considère qu'il y a une injustice dans la difficulté ou la pénibilité du travail qui lui est attribué devra s'en plaindre au grand contrôle qui examinera sa demande.
Personne dans l'arène ne protesta. Assurer sa part de corvée était la moindre des choses pour que la vie au nouveau château puisse tourner. Tous connaissaient des ados qui y mettaient moins de bonne volonté ou oubliaient les corvées, les bâclaient quand ça les arrangeait. Après tout, mettre un peu d'ordre éviterait que ce soit toujours les mêmes qui se sacrifient. Sortent les poubelles, lavent la vaisselle ou nourrissent les animaux de la ferme pendant que d'autres se tournaient les pouces.
« Deuxième règle, » continua le grand cerf. « Nous souhaitons que le grand contrôle, en cas de soupçon grave concernant un occupant du château, dispose du pouvoir de le surveiller, de l'interroger, de fouiller dans ses affaires personnelles et, si besoin, de l'enfermer. »
Il y eut quelques murmures dans l'amphithéâtre, mais aucune réelle protestation. Là encore, ce n'était pas bien nouveau. Le ministère des punitions s'était souvent permis d'isoler deux ados surpris en train de se battre. Comment faire autrement? On n'allait pas les laisser s'entretuer. Si quelqu'un était soupçonné d'avoir volé, il était logique de vérifier dans ses affaires ou de le questionner.
Troisième règle. Nous souhaitons que les documents les plus importants pour notre communauté soit mis en sécurité sous l'autorité du grand contrôle. Nous entendons par document important tout ce qui concerne l'intérêt supérieur du château et de ses habitants, par exemple l'état des stocks de nourriture et d'armes, les rapports d'exploration comme ceux de l'Albatros, ou les plans des futures expéditions qui seront lancées.
Là encore, la mesure semblait pleine de bon sens et ne parut déranger personne en particulier. Zizo se pencha discrètement vers Alix.
Quand il dit « nous », il parle de qui exactement ?
De lui, répondit Alix.
Les yeux d'Augénor la fusillèrent. Le grand cerf, tout en déroulant son discours, surveillait en permanence les membres du conseil assis au premier rang et ne pouvait manquer de repérer ceux qui chuchotaient. Alix se cala dans son siège et soutint le regard de son conseiller.
Quatrième règle. Tout propos, écrit ou geste visant à salir la mémoire de Marie-Lune, notre mère à tous, sera considéré comme blasphématoire et donc puni.
Il n'y eut toujours aucune réaction dans l'arène.
Au final, semblaient penser les ados, les règles pour assurer leur sécurité apparaissaient bien timides et ne les concernaient que peu. Qui aurait pu avoir envie de dire du mal de Marie-Lune ? Ils n'avaient rien à lui reprocher, à part de leur imposer parfois des cours trop compliqués, mais le grand contrôle n'allait pas considérer comme blasphématoire le fait de rouspéter parce qu'il y avait trop de leçons à apprendre.
« Ça ne tiendra pas », glissa Alix à l'oreille de Zizo. « Un jour ou l'autre, Chrysante, Mordelia ou Bill lâcheront le morceau sur le récit de Piersol et les enfants enterrés au cimetière de Picpus. »
Elle se moquait cette fois que le grand cerf la regarde ou non. Elle en avait longuement discuté avec Zizo depuis qu'Eugénor s'était affiché au grand bal avec Mordelia et Chrysante au bras de Bill. Elle ignorait ce que son conseiller avait pu promettre à Mordelia pour acheter son silence, mais elle était certaine qu'il ne s'agissait que d'une alliance de circonstances. Mordelia n'avait certainement pas renoncé à ses envies de vengeance contre le château et ne considérait sûrement pas Marie-Lune comme sa mère, à moins qu'elle ne le soit vraiment. C'était un jeu de stratégie tellement compliqué. Mais d'une façon ou d'une autre, elle était convaincue que la vérité finirait par être révélée, que ce soit par la bouche de Chrysante, de Bill, de Zizo, ou même la sienne, et qu'alors tous les efforts d'Eugénor pour protéger la mémoire de sa mère auraient été vains. En attendant, on pouvait bien laisser son fiston organiser son culte.
« Cinquième et dernière règle, » énonça le grand cerf sans lâcher Alix des yeux. « Personne, à partir de demain matin, ne devra quitter seul le château. »
Cette fois, plusieurs voix s'élevèrent dans l'arène. Des questions surtout, à la volée.
« Même pour chasser ? Même pour pêcher ? À deux, on peut quand même ? Et si l'on se perd ?»
Eugénor frappa du bout de sa canne au diamant pour rétablir l'ordre.
« Des soldats surveilleront en permanence les alentours du château. » Je peux vous assurer, contrairement à des rumeurs stupides qui circulent, qu'aucune armée de Prémas n'est en train de nous encercler dans la forêt. Mais c'est une possibilité que nous ne pouvons négliger, et sachant qu'il n'y a pas de meilleur contrôle que celui que chacun exerce sur ses amis, ses voisins de chambre ou de table, nous souhaitons que désormais les chasseurs, les cueilleurs, les pêcheurs et tous les promeneurs ne sortent du château que par groupe d'au moins trois. C'est une mesure qui vise à garantir la sécurité de notre communauté, au cas où quelqu'un voudrait en divulguer les secrets, mais avant tout, à garantir la protection de chacun. Il est bien évident que l'assassin, puisque ne l'oublions pas, quelqu'un a non seulement volé, mais aussi tué dans ce château, ne pourra plus frapper si personne ne reste isolé.
Ce dernier argument marqua les esprits. Et puis, après tout, analysait les ados sur les gradins de l'arène, il était très rare de se rendre seul dans la forêt. Même du temps du tipi, partir en groupe de 5 ou 6 était l'une des règles de sécurité de base. Les rumeurs qui, pendant une semaine, avaient annoncé que le grand cerf allait restreindre terriblement toute leur liberté étaient bien exagérées. Il ne proposait que des mesures de bon sens. Qui aurait pu s'y opposer ?
« Je ne suis pas d'accord, Nonor !»
La voix provenait de l'un des rangs du fond. Sabie, évidemment.
« Allez en forêt par groupe de 3. Tu ne trouves pas ça un peu curieux ? Et si moi j'ai envie d'y aller toute seule, enfin toute seule, avec mon amoureux, pour ramasser des fleurs ?»
Des rires fusèrent dans l'amphithéâtre. Sabie savait comment mettre une bonne partie du public dans sa poche.
« Il y a suffisamment de fleurs dans le parc, » répliqua le grand cerf avec un petit sourire.
Il ne voulait visiblement pas apparaître comme celui qui, trop sérieux, priverait les ados de ce à quoi ils tenaient le plus, flirter en toute tranquillité.
« Pas celle que je préfère, Nonor !»
continua la lolligirl.
« Seul mon amoureux connaît les fleurs que j'adore et où elles sont cachées. »
De nouveaux rires, plus nombreux encore, ainsi que quelques « ouh, ouh » et sifflets excités, saluèrent la tirade de Sabie. Le grand cerf frappa le plancher de sa canne. Cette fois, il avait fini de jouer.
« La forêt est dangereuse, Sabie. Alors pour une fois, tu te contenteras d'obéir aux règles comme tout le monde !»
Alix croisa le regard de Zizo, tout sourire. Sabie était en train de faire craquer Eugénor. Sa meilleure copine était décidément trop forte.
Dangereuse, Nonor ? Oh ! Ne me dis pas qu'à ton âge, tu as encore peur du loup.
Alix se pinça les lèvres et la peau du bras de Zizo en même temps. Est-ce que Sabine n'allait pas trop loin en évoquant Louponero, le meilleur ennemi du conseiller ?
Je croyais qu'il avait fini noyé,
poursuivit Sabine. C'était la phrase de trop. Elle avançait à découvert sur le terrain où Augénor l'attendait. Le visage du grand cerf se décontracta, comme soulagé d'un poids. Il pointa le diamant de sa canne vers Vanille et Jeanne d'Arc, assis l'un à côté de l'autre sur sa droite.
Notre délégué au grand contrôle pourra le confirmer, ainsi que le ministre des punitions, et évidemment nos espions postés autour du château. Ils ont eu la bonne surprise de voir, à plusieurs reprises, dans la forêt, cet enfant sauvage qui se fait appeler Louponero, bien vivant, sauté de branche en branche comme un écureuil apeuré. Vanille et Jeanne d'Arc cochèrent la tête en signe d'approbation. Sabine parut déstabilisée alors que la plupart des ados dans les rangées échangeaient des mots surpris et rassurés.
« Merci de nous avoir prévenus !» se contenta de répliquer Sabine, partagée entre la joie de savoir Lupo en vie et la colère de l'apprendre de la bouche de Génor.
Le grand cerf afficha un sourire mielleux.
« Notre ami s'est fait passer pour mort et a souhaité quitter en grand secret notre communauté. Nous n'avons fait que respecter sa volonté. »
Des chuchotements confirmèrent que l'argument était imparable. Le conseiller triomphait.
Lupo a reçu une pierre sur la tête, insista pourtant Sabine. Je comprends qu'il n'ait pas trop apprécié l'accueil qu'on lui a réservé, alors que, sans lui, on serait tous morts sur la passerelle du lac gelé.
Le sourire d'Augénor s'était déjà effacé. Il pointa cette fois son diamant vers la Lolly Girl.
Son agresseur a été neutralisé, enfermé, jugé et puni, selon nos règles, et elles sont justes. Cet enfant sauvage, à l'inverse, les a bafoués. Il a participé à notre tournoi, mais en a méprisé la cérémonie. Il n'a pas eu la courtoisie élémentaire de venir chercher les médailles qui lui revenaient, ces médailles que bien d'autres valeureux champions convoitaient. Il s'est fait passer pour mort alors qu'il ne l'était pas. Nos soldats ont sondé le grand canal pendant des heures, pour rien. Pour vivre dans une communauté, il faut en respecter les règles. Cet enfant sauvage en est incapable. Tout comme cet enfant prématuré, appelé Pou. Celui qui n'accepte pas les règles de la communauté la met en danger.
Et donc, se força à ironiser Sabine, c'est pour cela qu'on n'a plus le droit d'aller cueillir des fleurs dans la forêt. Parce que tu as peur qu'on aille révéler de grands secrets à Lupo, ou à un préma égaré, ou à un sanglier qui pourrait tout répéter?
Sabine espérait déclencher quelques rires, mais elle ne reçut que le soutien de ses indéfectibles Lolly Girls, qui se forcèrent à ricaner.
« Exactement », se contenta de répondre Augénor.
La brièveté de sa réplique surprit tout le monde, même Sabine. Le grand cerf laissa le brouhaha envahir l'assemblée, avant de continuer presque en chuchotant
« C'est d'ailleurs ce qui s'est passé ».
Seuls les premiers rangs et quelques ados plus attentifs avaient entendu. Chacun demanda à son voisin ce qu'Augénor avait dit, dressa l'oreille, attendit la suite.
« C'est d'ailleurs ce qui s'est passé !» répéta le grand cerf d'une voix forte pour que tout le monde l'entende cette fois. « Nos espions, et je parle avec l'accord du grand contrôle, ont repéré le plus insoupçonnable d'entre nous qui se rendait à de multiples reprises dans la forêt. Seul, pour rencontrer Louponero, y compris quelques heures à peine après sa disparition rocambolesque dans le grand canal. Un frisson parcourut l'amphithéâtre. Chacun croisait cent autres yeux, autant de regards soupçonneux.
Qui? Alix fixa tour à tour Zizo, Akane, puis chaque ministre assis au premier rang. Liu et Isalis, Vanille et Jeanne d'Arc, Agnel et Solario. Qui?
Rencontrer Lupo dans la forêt n'est pas un crime,
bredouilla Sabine. Alors pourquoi le faire en secret? Répliqua Augénor. Pourquoi ? En se cachant. Pourquoi ? Sans en parler à personne, pas même à ses amis les plus proches. Le climat dans l'hémicycle devenait électrique.
« Qui ?»
finit par crier de toutes ses forces Sabi.
« Donne-le ce foutu nom !»
Celui qui n'accepte pas les règles de la communauté la met en danger, se contenta de répéter le conseiller.
« Ok !»
s'énerva Sabi.
« On a compris le couplet ! Qui ?»
Le plus insoupçonnable d'entre nous, le plus discret, devrais-je dire, le plus insignifiant. Sabi essaya de sonder le visage d'un maximum d'ados entre les rangées. Chrysante, Gulo-Gulo, Pépin, Lunella, Braza, Osman, Noam. Quelqu'un qui connaît tout de notre passé, continua Augénor, parce qu'il veut en contrôler le futur. Et dans la seconde qui suivit, il dirigea le diamant de sa canne vers la troisième rangée, quatrième siège, dans la direction précise de la tête qui n'avait jamais été aussi rouge, de Valère.